lundi au vendredi, 12h-14h. Calade vous donne la parole. Le confinement, ensemble sur les ondes. Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Calade, nous sommes le jeudi 30 avril, il est 12h12, très heureux de vous retrouver dans cette émission, le confinement ensemble sur les ondes. J'espère que vous allez bien, que le moral est toujours au rendez-vous dans ce confinement qui dure depuis 45 jours aujourd'hui. Alors c'est long, oui, mais on a tous trouvé nos moyens de s'occuper et nos petites habitudes en ce moment, nos façons de se changer les idées. Et puis on est chacun chez soi, mais ça ne doit pas nous empêcher de garder le contact et d'échanger. Alors, dans cette émission, eh bien, on fait comme tout le monde en cette période. On prend des nouvelles par téléphone ou par d'autres outils numériques. On prend des nouvelles de nos animateurs, de vous, nos auditeurs, et puis des institutions, des associations, des entreprises. Bref, on prend des nouvelles du Beaujolais pour savoir comment ça va, apprendre des bonnes et puis parfois des mauvaises nouvelles, parce que c'est la vie. Et puis pour demander des conseils en cuisine aussi, en lecture, en musique, et puis pour rire, pour s'amuser tout simplement. C'est un peu ce qu'on fait tous en ce moment à la maison pour garder le lien, et c'est donc ce qu'on fait nous aussi ensemble du lundi au vendredi de 12h à 14h sur Calade dans cette émission Le confinement ensemble sur les ondes. Et pour commencer aujourd'hui, eh bien, on prend des nouvelles de la Villa Hispanica à Coni, un lieu de culture tout jeune puisqu'il a été créé en 2019 et qui s'intéresse à toutes les formes d'art plastique, écrit, art vivant, aux arts du monde entier. C'est donc le créateur de ce lieu qui est avec nous par téléphone, Philippe Merlot-Mora. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Mathieu et bonjour à Radio Calade. Ça va très bien, merci beaucoup.
Alors la Villa Hispanica à Coni, est-ce que vous pourrez nous rappeler ce lieu ?
Bien sûr. Alors la Villa Hispanica, dont le nom complet est la Villa Hispanica Coni, Beaujolais, Pierre Doré, France, en fait, est une institution qui vise à favoriser la connaissance, la diffusion, mais aussi le partage des arts et de la culture à partir du Beaujolais vers le national et l'international, et à l'inverse, recevoir aussi des personnes, des personnalités du national ou de l'international sur le Beaujolais. Voilà. Donc, comme vous l'avez très bien présenté, dans tous les arts, arts visuels, littérature, peinture, donc cinéma, théâtre, voilà, tous ces arts-là.
Et sur votre site internet, on voit qu'il y a un lien qui est important pour vous à faire entre les cultures du monde et les artistes locaux du Beaujolais. Il y a toujours un lien entre l'extérieur et puis le local, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Donc, puisque nous avons mis en place déjà cette année donc un cycle de 8 conférences, et sur ces 8 conférences, il y avait non seulement des intervenants nationaux et internationaux de renommée très importante, mais aussi deux conférenciers locaux de Coni qui nous ont parlé donc de la vigne et de l'art de la vigne. Et la conférence qui aurait dû avoir lieu en avril mais qui a été reportée, c'est un écrivain de Coni, donc Hervé Lemahout, qui devait présenter son dernier roman. Oui.
Et donc oui, vous organisez des conférences et des événements depuis 2019 maintenant. Quel genre d'événement a pu avoir lieu à la Villa Hispanica ?
Alors déjà, dès l'inauguration au mois de septembre de l'année dernière, donc nous avons eu le grand concert donc donné dans l'église Saint-Germain de Coni par le chœur d'oratorio de Lyon, qui reviendra d'ailleurs, donc c'est confirmé au mois de novembre de cette année. On espère que tout fonctionnera bien et que ce sera possible. Et il y a eu en même temps l'inauguration pendant cette semaine donc d'une exposition intitulée « Le Mexique, ma famille » d'un photographe mexicain, avec notamment 4 salles dédiées, une à la photographie, 3 autres dédiées donc à la culture mexicaine, donc, et tout cela sur 200 mètres carrés en intérieur et 200 mètres carrés en extérieur dédiés entièrement. Et il y a eu en effet des cycles de conférences, un par mois. Voilà, beaucoup d'activités, des journées d'études, et peut-être nous en parlerons, ce qui était programmé, qui sera reprogrammé pour nous, reporté uniquement, ça n'est pas annulé.
Alors oui, en cette période, depuis mars, j'imagine qu'il y a dû avoir plusieurs événements d'annuler, de reprogrammer. Quelles mesures vous avez prises pour continuer à agir avec la Villa Hispanica ?
Oui, alors tout à fait. Alors déjà, les deux dernières conférences, avril et mai, ont dû être annulées et elles sont reportées à partir du mois de septembre pour d'autres conférences dont le planning sera donné entièrement, l'agenda sera donné sur le site de la Villa Hispanica.com ou sur la page Facebook de la Villa Hispanica. Et ensuite, il devait commencer un cycle de peinture pour une vingtaine de personnes pour l'analyse de la peinture qui devait commencer en avril. Comme donc on pourra se regrouper à partir de 10 personnes maximum, peut-être ce cycle pourra débuter sur fin mai, début juin, avec 10 personnes maximum. Ensuite, nous avions prévu des petits concerts récitals sur le Brésil, sur l'Amérique latine. Et là, donc, à l'intérieur, nous sommes un petit peu bloqués parce que nous n'avons pas le droit. Mais heureusement, nous avons un extérieur de 200 mètres carrés qui, normalement, peut accueillir jusqu'à 120 personnes, mais nous allons limiter, alors en accord, on verra bien, avec la mairie de Coni, à 50 personnes. Vous voyez, on limite beaucoup, en respectant toujours les règles sanitaires très strictes. Ce sera le port du masque obligatoire, du gel hydroalcoolique, ça y est, nous avons pu nous en procurer. Le masque, je vais vous en parler après, nous en avons commandé aussi, ça devrait arriver. Donc, et les distanciations, et même nous avons décidé de mettre plus d'un mètre, jusqu'à deux mètres de différence, de séparation, voilà. Et le tout en collaboration avec la mairie. Et il devait y avoir un très très gros événement le 17 et 18 avril qui a été reporté, puisque nous devions accueillir l'académicien de l'Académie royale espagnole, Juan Mayorga, et qui n'a pas pu venir, bien sûr, mais avec son autorisation, et puis donc l'autorisation, enfin l'accord des participants, des conférenciers, s'est reporté au 9 et au 10 octobre de cette année. Je vous dis tout ça sur la Villa Hispanica pour avoir toutes les informations.
Voilà. Oui, on retrouve toutes ces infos sur votre site internet, oui. La Villa Hispanica, oui.
Et notamment, vous parliez du temps de confinement. Alors, ça ne s'est pas arrêté. Je peux vous dire que nous avons énormément continué à travailler. Donc, les activités en temps de confinement, ça a été mettre en ligne sur le site aussi de la Villa Hispanica, disponible et gratuit pour tout le monde, dans des conférences thématiques sur la peinture espagnole, sur les analyses de tableaux, sur le Prado, notamment le musée du Prado à Madrid. Dans un premier temps, c'était pour essentiellement les élèves et les professeurs, mais on s'est rendu compte que ça pouvait être aussi pour grand public. Et j'ai moi-même enregistré, donc, puisque je suis professeur à l'université Lumière Lyon 2, dans un art, histoire de l'art et littérature espagnole contemporaine, un cycle, alors avec les moyens du bord, mais il y a de bons échos, que j'ai intitulé donc à la découverte des secrets de la peinture espagnole et hispano-américaine, et que vous pouvez trouver sur le site. Et je suis en train de, une fois par semaine, d'enregistrer. C'est une série, à chaque fois des petites émissions, comme à la radio. Il y a du visuel, mais c'est du PowerPoint, dont vous pouvez suivre de un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et puis, dans les autres activités très importantes, la Villa Hispanica tenait vraiment à soutenir les vignerons de Coni, alors qu'ils travaillent beaucoup, mais qui vendent pas. Malheureusement, dans ces temps de confinement, ils ne vendent pas. Et donc, nous avons mis en place pendant une semaine, sur 7 jours, donc 7 chapitres, sur la page Facebook de la Villa Hispanica. Et donc, à chaque jour, il y avait un vigneron qui était mis en valeur. Et donc, ainsi, nous avons pu toucher plus de 3000 personnes qui ont regardé ces pages régulièrement, avec des photos donc données gratuitement par une photographe Sylvie Donati qui est venue faire des photos noir et blanc avant le confinement de Coni. Donc, et on sait que déjà une première commande a été faite, et cet après-midi, donc ce jeudi, je suis très très content pour les vignerons de Coni, donc une commande de 15 cartons descend sur Lyon, parce que donc les gens ont acheté sur Lyon, et donc 15 cartons iront sur Lyon, voilà.
Parce qu'ils ont entendu parler, grâce à vous, des vignerons du Beaujolais.
Tout à fait, on a mis en valeur avec une jolie photo. Alors là aussi, c'est comme vous savez, la représentation des tableaux vivants, des superbes tableaux. Moi, j'ai fait avec les moyens du bord, j'avais quelques bouteilles, et puis avec de quelques pièces donc de musée à côté, donc une statue, mettre en valeur les belles bouteilles des vignerons de Coni. Et puis, donc, la dernière chose que nous avons pu faire, c'est l'achat grâce, en gros, nous avons 150 adhérents. Donc, et chaque fois, nous avons décidé avec le conseil d'administration que pour chacun des adhérents qui avait payé sa cotisation, nous achetions un masque. Donc, les masques doivent arriver aujourd'hui. Ça a été annoncé, en effet, sur mon portable, ça doit arriver dans l'après-midi. Et nous avons décidé d'en offrir déjà, donc, au personnel communal de la ville de Coni, de la commune de Coni, deux par personne. Et ce sont des masques, donc réutilisable, lavable, 15 fois je crois, et puis aussi au personnel enseignant de l'école, puisqu'il y a 5-6 professeurs. Voilà. Pour les élèves, non, ils n'en ont pas besoin, donc on n'a pas fait cela, quoi. Donc on l'a fait surtout pour le personnel communal et le personnel enseignant. Voilà, c'est notre participation, donc un petit peu puisque l'autre idée, dès que le confinement a commencé, c'était de se dire comment aider les autres. Vous savez, dans ces moments-là, on voit très bien qui veut aider.
Oui, il y a eu plein de mouvements solidaires qui ont été mis en place et on voit que la Villa Hispanica a aussi participé, a aussi été solidaire avec ses actions au niveau des masques.
Des vignerons, et puis je vous dis, même Annalise, par exemple, vous voyez, à la découverte des secrets que vous pouvez sur lesquels vous pouvez accéder gratuitement, c'est tout public, c'est vraiment facile d'accès. Des personnes qui ont dit, mais on a appris maintenant comment c'est analyser un tableau, la lumière, ça c'est vraiment bien.
Alors oui, justement, voilà. Je voulais revenir sur ces analyses qu'on trouve, analyses d'œuvres qu'on trouve sur votre site internet. Pour moi qui n'y connais pas grand chose en art, je prends mon exemple, je me retrouve devant un tableau, à part se poser la question est-ce que ça me plaît, est-ce que je trouve ça beau, quelle question est-ce que je peux me poser devant un tableau pour essayer de l'analyser, de le comprendre un peu mieux?
Alors, déjà, la première remarque que vous faites est très bonne, c'est-à-dire il faut se dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mais ensuite, il faut essayer d'analyser pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. Et pour cela, il y a des méthodes. Donc, comme pour un texte, vous savez, il y a des analyses du narrateur, le temps, l'espace. Et pour la peinture, c'est pareil. Il y a notamment la structure du tableau, la lumière du tableau, il y a les couleurs du tableau. Et les artistes savent très bien que ce que je viens de citer, ce sont les invariants du tableau. Donc, ils savent très bien les utiliser. Et ils savent très bien comment manipuler notre regard pour guider notre regard et nous amener à voir ce que eux ils veulent que l'on voit. Voilà. Donc je vous rappelle la lumière, la structure ou composition, les couleurs. Et puis, mais allez voir sur le site de la Villa Hispanica.
Justement
tout
sur le site on trouve tout.
Voilà.
Et effectivement, et ça pourra permettre quand on pourra retourner dans les musées ou dans les lieux d'art, et d'avoir quelques outils en plus pour
se poser les bonnes questions. Et c'est grâce à cela, notamment, puisque on en avait parlé hors antenne, que nous avons pu donc demander de devenir réserve civique. Donc, vous savez, c'est un système qu'a mis en place le gouvernement français depuis l'attentat de 2015 et qui demande aux bénévoles, aux institutions, aux associations un engagement bénévole de citoyens, et ça peut être l'acteur d'un, on peut être acteur d'un ou de plusieurs projets d'intérêt général, et donc bien sûr ça a été réactivé avec le confinement, notamment sur des missions telles que la solidarité, l'éducation, la culture, l'intervention d'urgence, et aider son prochain, quoi. Donc ça n'est pas simplement religieux, ça peut être aussi très laïque. Et il y a une plateforme donc qui a été mise en place par le gouvernement, qui est réserve civique gouvernement.fr, et nous avons été remarqués par le gouvernement et obtenu ce label, pour ainsi dire, puisque nous distribuons avec quelques bénévoles d'abord des cours, donc gratuitement. Nous avons eu des appels téléphoniques de quelques élèves au départ qui étaient un petit peu déboussolés. Et puis, comme je vous le disais, je suis professeur, donc il y a quand même des choses qui reviennent, puisque je suis passé par le secondaire avant de passer à l'université. Mais aussi distribuer donc aux personnes fragiles des produits de première nécessité, des repas. On l'a fait sur la commune de Cogny, nous étions trois. Sur certaines personnes qui soient atteintes, elles s'en sortent petit à petit, mais ça a été difficile, et d'autres personnes qui avaient besoin, parce que personnes âgées, et même maintenir le lien. Vous voyez, coup de téléphone, on appelle, je passe beaucoup de temps au téléphone ces temps-ci pour avoir des nouvelles des uns et des autres.
Voilà. On passe des coups de fil, ouais, effectivement.
Oui, en plus du travail, parce qu'à côté, il y a eu tout le travail à tout repenser à l'université, même si l'université est fermée, n'ouvrira que en septembre. Donc c'est la période à l'heure actuelle des examens, mais il a fallu repenser tous ces cours, les mettre sur des plateformes, les rédiger et préparer une heure de cours. En gros, c'est une heure de préparation, mais là, quand vous devez re-rédiger tout, ça vous prend 3 ou 4 heures pour que ce soit parfait, et vous n'avez pas le retour systématique de l'élève ou de l'étudiant. Donc c'est très compliqué, et il faut vraiment soutenir les premières lignes des soignants, mais les deuxièmes lignes, je peux vous dire, l'éducation nationale a énormément travaillé aussi derrière. Voilà.
Et on le sait que nos professeurs, nos enseignants, ils n'ont pas forcément eu le temps d'aller ramasser des fraises gariguettes.
Je ne voulais pas mentionner, mais voilà. Maintenant, ce n'est plus les fraises, c'est bientôt les cerises.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Bon, en tout cas, la Villa Hispanica n'a pas chômé en cette période,
non,
j'ai l'impression.
Pas du tout. Vraiment, en plus du travail personnel, on a été vraiment par les 10 membres du conseil d'administration, les 6 membres du bureau, c'est une forme d'association. Hein, donc, en 1901, ça a beaucoup travailler. Et je tenais vraiment à remercier aussi d'autres institutions qui nous ont soutenus. Et parce que vous savez, on parle bien sûr de la reprise économique, il faudra y penser, mais il y a aussi la reprise culturelle et artistique, et c'est très difficile puisque les salles sont fermées, les grandes salles. Mais nous, je peux vous dire qu'on a eu notamment, par exemple, le soutien de la commune de Cogny. J'ai été très surpris, en bien, vraiment très très bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a recontacté puisque nous avions demandé une subvention pour savoir comment ça allait. Même notre banque qui a dit on va vous aider, donc la Banque Populaire Cazen. Excusez-moi, je fais un peu de pub, mais quand il y a des banques qui fonctionnent bien, je crois qu'il faut le dire, et qui sont près du public. Voilà. Et puis ensuite, les deux universités de la région, l'Université Lumière Lyon 2, l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, une très très grosse collaboration, parce que nous avons échangé beaucoup sur nos sites avec l'Institut Cervantes de Lyon. Et puis, moi je crois qu'il faut souligner aussi le gros travail que vous faites de ce qu'on appelle les petites radios, comme Radio Calade, mais qui sont très très proches des gens et qui permettent de... Elles sont petites, mais ce sont elles qui font le grand monde. Voilà, les gens qui sont près de nous, et parce que vous nous connaissez bien, quoi. Vous êtes proches de nous. Voilà.
Pour garder le lien. Et moi, je souligne quelque chose que vous avez dit, c'est que le monde de la culture, en général, va avoir besoin de soutien, des institutions et autres, parce que c'est un monde qui va être beaucoup affecté par cette période, et c'est vrai qu'on va avoir besoin de solidarité à ce niveau-là aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et vous voyez, nous, par exemple, là, on continue à recevoir quelques adhésions. Et chaque fois, donc, on a dit une adhésion, on achètera un masque. Donc, je vous dis, 150 adhésions sur les deux années, donc 150 masques. Donc, ça continuera parce que pour les activités, donc, si les personnes, port du masque obligatoire, mais s'ils l'ont oublié, ça peut arriver, ben, la Villa Hispanica leur offrira leur masque.
À l'entrée. Voilà. En attendant de pouvoir retourner dans les lieux culturels, on le rappelle, sur le site de la Villa Hispanica, on peut apprendre à analyser une œuvre d'art, on peut voir aussi des analyses d'œuvres existantes, principalement d'art espagnol, et avec des approches didactiques. Alors moi j'ai essayé avec un tableau de Frida Kahlo de voir comment est-ce qu'on pouvait analyser ce tableau. Ça fonctionne bien, c'est intéressant, je me suis essayé à l'exercice. Donc je vous invite aussi à aller sur le site internet de la Villa Hispanica. Merci Philippe Merlot-Mora, vous êtes le président de l'association de la Villa Hispanica. Merci de nous avoir présenté vos activités en cette période.
Très bien, merci beaucoup Mathieu et merci à Radio Calade.
Et puis on se retrouve bientôt pour suivre votre actualité.
Pour d'autres activités, oui, pour les grosses activités, concerts à la rentrée en novembre, l'académicien au mois d'octobre, donc il y aura beaucoup de choses très belles à Cogny, dans le Beaujolais.
Allez, merci encore, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Calade. Le confinement, ensemble sur les ondes.
Et la première fois que j'avais reçu Monsieur Philippe Merlot-Mora sur notre antenne, c'était en septembre ou en octobre. Il nous avait parlé d'une exposition sur le Mexique. Et donc j'avais envie d'écouter une musique qui nous emmenait au Mexique maintenant. On écoute The Coaster avec Down in Mexico, un titre découvert dans un film de Tarantino, Boulevard de la Mort. Un super morceau, comme dans tous les morceaux de Tarantino, en tout cas de ses BO de films Down in Mexico, de The Coaster sur Calade.
To have a crazy little
Coaster sur Calade avec Down in Mexico. On va retrouver dans quelques instants Nadjet qui nous proposera sa recette de cuisine du jour. Mais d'abord, on reste encore un petit peu en Amérique latine avec Manu Chao qui nous chante Clandestino.
Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
C'était Manu Chao, évidemment, sur Calade avec Clandestino.
Le confinement, ensemble, sur les ondes.
Et tout de suite, on retrouve Nadjet, des petits cuistots aglaisés, qui nous propose chaque jour une recette originale avec des ingrédients qu'on a à la maison. Bonjour Nadjet.
Bonjour Mathieu, comment allez-vous?
Eh ben ça va bien aujourd'hui. Ravi d'être à l'antenne, de vous retrouver. Je suis curieux de savoir ce que vous nous avez préparé aujourd'hui.
Eh bien, en fait, je vous ai préparé deux recettes à base de fleurs comestibles.
Eh ben je vous écoute, je suis surpris des fleurs comestibles.
Saviez-vous, Mathieu, qu'il existe près de 250 fleurs comestibles et qu'elles sont cuisinées depuis l'Antiquité ?
Eh ben, j'en avais entendu parler, mais je n'ai jamais osé manger de fleurs jusqu'à maintenant.
D'accord. Alors, attention, les fleurs achetées chez votre fleuriste ne conviennent pas, hein, parce qu'elles sont traitées chimiquement. Vous en trouverez, Mathieu, chez quelques producteurs bio, hein, qui sont spécialisés en fleurs comestibles. Sinon, vous pouvez vous procurer des graines bio et les faire pousser en fait vous-même dans un pot ou dans votre jardin. Attention, Mathieu, certaines fleurs sont interdites à la consommation, comme le muguet, par exemple, les fleurs de chèvrefeuille, de rhubarbe ou de laurier. Et la liste est longue, donc attention, même si elles sont bio, le mieux c'est de consulter un herboriste ou un pharmacien, hein, avant de les cuisiner.
D'accord, elles sont interdites parce qu'elles peuvent être dangereuses ?
Dangereuses, exactement, oui.
D'accord, donc il faut faire attention.
Comme je vous disais, je vous propose deux recettes à base de fleurs, donc des pétales de rose cristallisées et des beignets de fleurs d'acacia. On y va ?
Allez, je vous écoute.
Allez, donc pour les pétales de rose cristallisées et pour quatre personnes, donc trois ingrédients, une rose, alors attention qu'elle ne soit pas traitée chimiquement, hein, 200 g de sucre en poudre et deux blancs d'œufs. Donc on va commencer par détacher les pétales de rose sans les casser. Nous les laverons à l'eau claire et nous les sécherons dans du papier absorbant. Là, on va monter les blancs en neige très ferme et on trempera les pétales de rose dans le blanc en neige, puis dans le sucre cristallisé. On les déposera au fur et à mesure sur un plateau recouvert de papier sulfurisé. Il n'y a plus qu'à les laisser durcir pendant 3 heures à température ambiante et dans un endroit sec. Et la recette est terminée, Mathieu.
Et on obtient donc des petites pétales de rose qui doivent ressembler à des bonbons, j'imagine.
Exactement, qui croustillent en fait. Hein. Vos pétales de rose en fait ont durci, elles se sont solidifiées et vous les mangez un peu comme des bonbons.
Donc plutôt que d'offrir un bouquet de roses, on peut offrir des petites pétales à grignoter.
Ben oui. Allez, deuxième recette, les beignets de fleurs d'acacia. Alors Mathieu, savez-vous à quoi ressemblent les fleurs d'acacia ?
Eh ben, j'en ai juste sous les yeux, là ça fait des petites grappes blanches, j'en vois à travers la fenêtre.
C'est ça. Elles sont petites, blanches, et elles se présentent sous forme de bouquets, de petites grappes, comme vous dites, c'est exactement ça. Effectivement, et vous en avez en fait juste derrière la radio. Allez, donc, il nous faut un petit saladier de fleurs d'acacia, non traitées et nettoyées, bien sûr. 150 g de farine, 2 œufs, 20 centilitres de lait, une pincée de levure, 2 cuillères à soupe d'huile. D'accord ? Du sucre, bien sûr, du sel et un peu d'huile pour les frire. On va commencer par verser dans un grand saladier la farine, la levure et la pincée de sel. D'accord ? On creuse un puits au centre, on y casse nos œufs et on y ajoute l'huile. Là, on mélange bien et on incorpore le lait peu à peu à l'aide d'un fouet. Et on laissera reposer la pâte au moins 30 minutes. Alors moi, je la laisse bien reposer au moins 2 heures en fait. Hein. Donc là, il ne nous reste plus qu'à tremper les fleurs d'acacia, mais parfaitement propres, dans la pâte à beignets. Et on va les faire frire une minute de chaque côté. On les disposera au fur et à mesure, bien sûr, sur une feuille de papier sulfurisé et on les saupoudrera de sucre. Il n'y a plus qu'à déguster.
La feuille de papier, c'est pour absorber
l'huile, voilà.
L'excédent de gras, oui.
Exactement.
Et donc, ça fait comme des bugnes à l'acacia, ce serait ça ?
Hein ? C'est ça, voilà. Alors, on fait souvent des beignets avec des fruits, des pommes, par exemple. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais on mettra des feuilles d'acacia.
Ben, des pétales de rose et des feuilles d'acacia en beignet, c'est des idées originales pour aujourd'hui, pour le dessert.
Oui. Et vous savez, Mathieu, excusez-moi, vous avez d'autres façons de cuisiner les fleurs. Vous avez, par exemple, les fleurs de courgette et de courge sont farcies, par exemple. Les violettes se confisent aussi dans le sucre, comme des bonbons, vous voyez, idem pour le coquelicot. La lavande se fera plutôt infuser, en fait, dans du lait, par exemple, pour devenir flan ou infusion, tout simplement. Même chose pour la rose. aussi, c'est pareil. Vous avez des fleurs de capucine aussi, qui apporteront leur petite saveur poivrée à une salade.
Ah, je ne connais pas la fleur de capucine. C'est original, c'est des bonnes idées. On en apprend tous les jours, oui, grâce à vous, Nadjet, sur notre antenne, oui, avec vos recettes. Alors moi, j'ai un défi pour la prochaine fois, pour lundi, quand on vous retrouvera. J'aimerais essayer de revisiter l'hamburger que je mange régulièrement et voir si on peut lui donner une touche originale. Pourquoi pas mettre des fleurs à l'intérieur.
Eh bien allez, c'est parti pour l'hamburger maison. Ça changera des légumes qu'on vous fait manger. Hein.
C'est ça, oui. J'ai encore cette histoire de céleri rave que je n'ai pas réussi à décrire à l'antenne.
Bon, eh bien, écoutez, moi, pour moi c'est parfait. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt, je ne sais pas Mathieu, donc ça sera vendredi prochain, hein, c'est ça?
Alors moi je vous retrouve lundi à la place de Benoît, je vous retrouve dès lundi Nadjet.
D'accord, très bien, je vous dis à lundi alors, je vous souhaite un très bon week-end.
Très bon week-end, à bientôt, salut.
Merci, au revoir Mathieu.
Le confinement, ensemble sur les ondes.
Et allez, on va continuer en musique sur Calade. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir un artiste que j'aime beaucoup. Il s'appelle Alan Peters, c'est un artiste réunionnais. Et donc il fait du maloya, la musique traditionnelle de la Réunion. On écoute un morceau qui s'appelle « Plainte de Satan » de Alan Peters.
Le soir, l'été qui vient. Ton cheval bondit, l'arc s'en fait l'eau dans l'océan. Mon cheval y boite, mon charrette y grince, mais crois bien que tu connais le son. Femme potentiel, d'étoile hybride, pourquoi le style pour faire plier, moi la cachette, mon lama, mon clin qui quinquant, pour pas voir. Même tonnerre, le foie les cuits, mettre ligne au tambour, mon l'épave, si le chemin moi t'es pour aller, clin qui clinquant, guette mon cadavre. Pour mille ans, t'y démarre à moins, t'y laisse à moins, boire l'huile t'entend, et guette ton ciel, mi wana point, qu'on clin qui clinquant, pour ces mille ans.
Oh bon Dieu,
pourquoi tu fais ça?
Pourquoi tu fais ça?
Oh bon Dieu, si la gamme là,
si la gamme là.
Oh bon Dieu, pourquoi tu fais ça?
Pourquoi tu fais ça?
Oh bon Dieu, si la gamme là,
si la gamme là.
Mon Dieu, l'âme, les vincettes, le prative puis m'y confesse. Mon boule noire qu'elle est devant où on dit rentre pas, coup de pied dedans.
Oh bon Dieu,
pourquoi tu fais ça?
Pourquoi tu fais ça?
Oh bon Dieu, si la gamme est là.
Il a gamin là,
oh bon Dieu, pourquoi tu fais ça,
pourquoi tu fais ça,
oh bon Dieu, il a gamin là, oh bon Dieu, pourquoi tu fais ça,
pourquoi tu fais ça.
Voilà, Alan Peters sur Calade pour voyager un petit peu à la Réunion en musique. On va continuer en douceur avec The Lumineers, OA.
Hey. trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed.
Sur Calade avec OA, cette petite balade folk qui fait du bien à écouter. On a rendez-vous tout de suite avec notre libraire sur Calade. C'est lui qu'on appelle quand on a besoin d'un petit conseil lecture et littérature. C'est Bertrand Lamure.
Calade. Le confinement, ensemble sur les ondes.
Alors bonjour Bertrand, comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, je vais très bien, voilà, en mode libraire à semi-confiné, je dirais, entre guillemets, parce que du coup, nous, on peut quand même faire ce qu'on appelle en bon anglais du drive, et puis autrement, bah, écoute, on avance, et un jour, peut-être que on verra un peu de lumière.
On verra le bout. Justement, ce drive, peut-être que tu peux nous rappeler comment ça fonctionne.
Alors, en fait, c'est à la fois, en fait, c'est assez simple, hein, puisque la librairie est bien évidemment fermée jusqu'au 11 mai. Donc, les personnes n'ont pas le droit de rentrer dans la librairie, mais je peux leur fournir, soit suite à une commande, soit directement à la porte, le livre qu'ils souhaitent, en respectant les règles sanitaires, bien sûr. Le seul bémol, c'est que, bien sûr, pour l'instant, ce n'est que le stock de la librairie, puisque la chaîne du livre n'a encore pas réorganisé tout son univers. Et donc voilà. Et donc je suis là le lundi, mercredi et jeudi. Ça sera le cas encore pour la semaine prochaine. Et après le 11 mai, ben, on va réouvrir entre guillemets, et je pense qu'il y a 23 guillemets, normalement. Avec voilà tout un protocole sanitaire et puis progressivement de pouvoir déambuler dans la librairie parce qu'en fait on s'aperçoit c'est ce qui manque à beaucoup de gens que je vois de loin mais avec qui on discute et qui bah voilà pour eux mais bon c'est déjà un premier pas
donc en attendant si on est arrivé à bout de notre bibliothèque il faut pas paniquer on peut commander des livres
pas de panique Après, tout dépend de la taille de la bibliothèque, mais je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à trouver dans la bibliothèque. Voilà. Mais après, je pense que c'était important. Moi, je suis très très content de tous les échanges que j'ai eus depuis la réouverture en mode drive, parce que les gens sont adorables, ont aussi besoin de communiquer. Je crois que c'est aussi important en cette période. Les gens commencent à en avoir un peu marre du confinement, mais s'accrochent quand même, c'est chouette. Mais ils ont quand même besoin un petit peu d'échange et de chaleur humaine. Donc bon, voilà. Nous, on est un peu là, dans notre toute petite mesure. Mais bon.
Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui, Bertrand, en matière de littérature ?
Alors, J'avais envie aujourd'hui d'évoquer, parce que donc la librairie des Marais est une librairie généraliste, on pense tout de suite roman, mais il y a aussi un rayon que j'apprécie beaucoup, auquel je suis très attaché, qui est le rayon de la bande dessinée, du roman graphique. Et il y a évidemment, comme dans tous les rayons de la librairie, de vrais coups de cœur, de vrais petits trésors. Donc là, pour aujourd'hui, c'était juste de mettre en avant 3-4 titres que j'ai beaucoup aimés. Alors on va commencer par un qui est assez simple. C'est les livres de Pierre Lemaître qui ont été mis en BD. Alors Pierre Lemaître, on le connaît puisqu'il a eu le prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, et puis il a continué avec Couleur de l'incendie, et puis il vient de terminer cette fameuse trilogie historique avec Miroir de nos peines. Et là, pour l'instant, les deux premiers titres sont sortis en roman graphique. Et ma foi, c'est très réussi. Le graphisme est assez classique, mais quand même mais bien fouillé, bien travaillé, avec une impression d'être dans ce monde un peu historique des années 20-30. Et que ce soit Au revoir là-haut comme Couleur de l'incendie, tous deux publiés par Rue de Sèvres, par Christian Demeter pour le graphisme. Et ben voilà, c'est à lire, à apprécier, à offrir. Très chouette BD. Après, on s'évade un peu plus. Alors avec un auteur qui est devenu un petit peu un des auteurs en vogue, entre guillemets, de la BD. Hein. Je rappelle que la BD en 2020, c'était censé être l'année de la BD. Donc là, c'est un peu dramatique pour tous ces auteurs et ces illustrateurs qui gagnent déjà très difficilement leur vie. Bastien Vivet se sentir plutôt pas mal, puisque il est reconnu par ses pairs, par le public. Alors jusqu'à présent, il avait publié pas mal d'albums. Alors j'aurais tendance à dire que c'est un peu ses petites obsessions qu'il a, c'est-à-dire qu'il aime bien parler un petit peu des jeunes filles, des rapports sexuels, voilà, ça le titille toujours un petit peu. Et là, il vient de sortir un album qui est un peu différent, qui s'appelle 14 juillet. Et 14 juillet, c'est autour de principalement d'un gendarme qui va être confronté à un possible attentat dans un village. Alors, c'est assez bien fait, hein, on se laisse bien prendre au jeu. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que le graphisme est très particulier. Il y a très peu de détails. Par exemple, on voit très très peu le visage des personnages. C'est suggéré et ça fait, je trouve, toute la force, tout le mystère de son dessin.
Bastien Vivès, moi je l'avais connu aussi avec, alors c'est peut-être un peu plus jeunesse ou adolescent, avec Last Man, il me semble, bien sûr, qu'il en fait partie.
Voilà, il avait participé effectivement avec tous ses potes à la série Last Man, qui a connu un succès assez dingue. Voilà, c'est un peu décalé pour lui dans ses collaborations, mais ouais, tu fais bien de le redire.
Il a un panel large, du coup.
Oui, il a un panel large. C'est vrai que là, ils ont terminé les Last Man parce que c'était un boulot à trois et c'était assez compliqué apparemment de bosser ainsi. voilà, donc là, il revient en solitaire et ma foi, 14 juillet, malheureusement, 14 juillet est sorti juste avant le confinement, mais voilà, une BD à suivre, un peu décalée de nouveau par rapport à ce que je disais tout à l'heure et ses obsessions d'illustrateur, mais bien ficelée. Alors, un autre qui est fait par Riff Rebs. Riff Rebs est un illustrateur que je trouve d'un immense talent. Et il a sorti deux romans graphiques qui réadaptent les romans de Jack London. Et en particulier un qui vient de sortir qui s'appelle Le Loup des Mers, sur un jeune, un jeune intellectuel qui prend un bateau pour rejoindre un ami dans la baie de San Francisco, et il y a une tempête et il se retrouve naufragé. Et heureusement, il y a un bateau de pêche qui le récupère. et au lieu de le ramener gentiment au port de San Francisco, eh ben en fait l'emmène avec eux pour la chasse aux phoques. Et là, on part dans une grande aventure avec un capitaine complètement détraqué. Ouais, c'est une super nouvelle de Jack London, mais c'est un super graphisme. Alors, vraiment, il y a un graphisme extraordinaire dedans. C'est bon, très, 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 très chouette. C'est Riff Rebs, Le Loup des Mers, chez Noctambule. Et pour terminer, bon, parce que j'aime beaucoup l'illustrateur, c'est Didier Tronchet. Alors Didier Tronchet, on le connaît pour beaucoup de titres, c'est aussi quelqu'un qui voyage pas mal. Et là, il a fait encore un petit album trop mignon d'un homme qui pendant 20 ans a écouté un album d'un chanteur qui a fait qu'un album, qui a complètement disparu, et il rêve de le retrouver. Et donc il va employer plein de stratagèmes pour essayer de le retrouver au bout du monde. Et voilà, et c'est chouette. Plein de petites saveurs. Donc voilà, c'est pour dire que la BD, il y a plein de choses, il y a plein d'univers, et j'ai encore pas parlé de la fantasy, de la SF, mais ça peut être aussi la BD comme de la BD qui est plus de la sociologie.
On trouve plein de choses dans la bande dessinée et dans le roman graphique, plein de thèmes abordés, que ce soit dans l'enfance et puis des choses plus adultes.
Il y a aussi les thèmes d'actualité, des thèmes autour du féminisme, autour de l'écologie, qui sont abordés avec efficacité et puis beaucoup de beauté, parce que moi je trouve que quand je reçois des illustrateurs à la librairie, je trouve ça fabuleux, parce que en quelques coups de pinceau, de crayon, hop, ils te ramènent dans leur histoire, et quand on se fait quand même dédicacer un album BD par Bastien Vivet, ou Didier Tronchet.
Ça doit être un plaisir. Merci Bertrand de nous avoir proposé ce moyen de s'évader à travers les bandes dessinées et les romans graphiques. Il va être l'heure des journaux. Bertrand, merci encore et à bientôt.
Merci, à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.
Salut. Et oui, c'est l'heure des journaux sur Calade.
Calade, 13h.
Lundi au vendredi, 12h-14h, Calade vous donne la parole. Le confinement, ensemble sur les ondes.
Et ravi de vous retrouver après ces pages d'information sur Calade dans notre rendez-vous quotidien, le confinement ensemble sur les ondes. Et ensemble, on l'est jusqu'à 14h. Alors, dans cette seconde partie d'émission, on a rendez-vous avec Georges Botton, comme chaque jour, pour nous proposer une nouvelle pépite jazz dans sa rubrique Mai la 11e. On va retrouver également l'un de nos trublions, Florent Hénon, chroniqueur et improvisateur qui officie habituellement dans l'émission Recto Verso et qu'on retrouve régulièrement dans cette émission depuis le début du confinement. Et habituellement, à cette heure-ci, après les pages d'information, quand ce n'est pas moi qui anime l'émission, que c'est mes camarades Eddy Bernard et Benoît Adam, ils me contactent à cette heure-ci exactement pour la revue de tweets. Et bien aujourd'hui, on inverse les rôles, c'est moi qui les contacte, plus précisément Eddy Bernard, et ce n'est pas pour la revue de tweets, c'est pour parler sport aujourd'hui. Salut Eddy.
Oui, salut Benoît. Salut Mathieu, Benoît.
On se confond en ce moment.
Ah c'est tout à fait amusant, c'est tout à fait étrange, mais c'est vrai que c'est agréable de nous retrouver tous avec nos amis tous les jours pendant toute la durée du... Au moins jusqu'à la fin de la prochaine. Hein.
Oui. Alors aujourd'hui, on va parler sport. On va essayer de voir avec toi l'actualité sportive locale en cette période si particulière. Eddy, alors quelle nouvelle du sport local ?
Et oui, tu sais que le sport, c'est mon autre passion, Mathieu. Pas
l'une de mes autres passions principales. Et surtout, évidemment, nous suivons sur Calade 100.9 très régulièrement l'actualité sportive qui nous concerne de près dans nos territoires. Et c'est vrai que cette actualité, si elle est en berne, en sommeil, hein, depuis le début du confinement, néanmoins, cette actualité existe toujours. Et j'en parlais avec Benoît la semaine dernière, où nous avions encore plusieurs incertitudes vis-à-vis des clubs régionaux, en tout cas des sportifs en activité dans la région. Il y a eu de l'actualité cette semaine, et en effet, nous avons avancé sur pas mal de sujets. La principale information qu'il faut retenir depuis mardi soir, eh bien, elle concerne le football club Villefranche-Beaujolais, le FCVB, le fer de lance de notre sport régional. Hein. Oui, le fer de lance de notre sport régional, hein, disais-je, qui désormais est fixé sur son sort, la saison 2019-2020 du championnat national est donc bien terminée cette fois et donc n'ira pas à son terme. Ce que nous redoutions, ce que nous pressentions en effet déjà depuis quelques temps, mais cette fois c'est sûr et c'est certain. Ouais. Alors maintenant, la Fédération française de football a depuis hier soir donné sa position quant à l'avenir des championnats en cours, hein, puisqu'ils sont désormais totalement annulés. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour notre équipe, pour le football club Villefranche-Beaujolais, eh bien, c'est un maintien dans le championnat national qui est désormais acté après une très belle saison. La saison est arrêtée au-delà, enfin à la fin de la dernière journée complète disputée pour le championnat, hein, c'est-à-dire il restait une dizaine de matchs retour à effectuer, à jouer, ils n'auront pas lieu. Et donc, le FC Villefranche-Beaujolais restera donc en national avec une septième position au classement final. Ce qui n'est pas encore certain, eh bien, c'est le palmarès, c'est-à-dire est-ce que la Fédération française attribuera le titre de champion à Pau, hein, qui est en tête du classement à ce stade, ou pas? Ça, nous verrons dans les prochains jours. En tout état de cause, pour le FC Villefranche-Beaujolais, eh bien, c'est le maintien en championnat national. Et ça s'est accompagné de la re-signature, du renouvellement pour un an de plus, donc du contrat du coach Alain Pochoa, qui restera bien encore au moins donc une saison en national et dans le Beaujolais en Calade. Voilà pour l'actualité la plus fraîche du football.
Des bonnes nouvelles plutôt, on peut le dire, pour le club de foot de Villefranche.
Ce qui est surtout intéressant pour le FCVB, c'est que c'est important pour les clubs de sport, ça va être de pouvoir tirer un trait sur la saison, hein, de pouvoir passer à la suite et de pouvoir travailler dorénavant à la préparation de la prochaine. C'est vrai qu'il va falloir s'y mettre assez vite parce que traditionnellement, les mouvements dans les clubs, dans le foot, se font là en fin de championnat, début mai jusqu'au début du mois de juin, pendant les vacances officielles du football, avant la reprise des entraînements qui se fait traditionnellement au milieu du mois de juin. Donc c'est vrai qu'avec la certitude que le coach Alain Pochoa va rester, c'est vrai que c'est une excellente nouvelle. Il faut se rappeler qu'Alain Pochoa, tout de même, à l'origine de la montée attendue depuis de longues années en national et derrière du maintien, puis surtout de cette saison 2019-2020, qui les voyait pratiquement disputer la montée en Ligue 2. Hein,
oui, c'est vrai que c'était un des objectifs. De
donc c'est vrai Alain Pochoa pour un an de plus, avec un effectif qui est totalité, eh bien, les dirigeants, le président Philippe Terrier et les dirigeants vont pouvoir désormais bien programmer la préparation de la saison 2020-2021. Voilà pour le football.
Oui, donc ça doit être plus facile de s'organiser avec des certitudes. Après le football, quel autre sport vas-tu nous parler, Eddy?
L'actualité de la semaine, elle a été également aussi pour un autre sport collectif majeur pour nous, c'est le rugby, avec le CS Villefranche Rugby. Et dorénavant, eh bien, nous savons également que, à la demande des dirigeants du CSV, eh bien, le CSV, donc Villefranche, devrait, en toute logique, repartir à l'échelon inférieur sportivement. Mais le président Bambillet a demandé à la Fédération française de rugby
de redescendre, de retourner au niveau de la Fédérale 2. Pourquoi ? Eh bien parce que, essentiellement pour des raisons financières. Le président Miguet veut tabler sur un budget prévisionnel pour la saison prochaine ramené à 500 000 euros au lieu des 900 000 qui était le budget de cette saison. C'est tout de même un écart énorme.
Ouais.
Et il est donc beaucoup plus sage de repartir à l'échelon inférieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que, je le lisais encore ce matin dans la presse, c'est qu'a priori, l'immense majorité de son effectif sportif a lui, a priori, l'intention de rester au CSV où les joueurs sont bien, se sentent bien. Et on devrait donc avoir la saison prochaine une très très belle équipe de Fédéral 2, mais avec une certaine sagesse budgétaire. C'était a priori la meilleure des décisions prises par le staff du président Miguet, qui va en profiter pour effectuer des ajustements, et ça aussi c'est officiel depuis le début de la semaine, dans son staff technique, puisque les coachs Bertrand Nogier et Laurent Pacchivato vont rester dans le club, mais vont prendre du recul avec l'équipe première. Et dorénavant, eh bien, l'équipe qui repartira vraisemblablement en Fédéral 2, elle sera entraînée pour les trois quarts par Sébastien Bouillon, joueur emblématique du CSV, hein, comme tu le sais peut-être, Mathieu. Je suis sûr que tu ne le sais pas. Mais Sébastien Bouillon, eh bien, c'était notre buteur. Hein, c'était celui qui s'occupait de tirer les transformations, les pénalités, enfin tous les coups de pied, hein, bien entendu. Eh bien, Sébastien Bouillot, après une carrière bien remplie, devient donc l'entraîneur des trois quarts, l'entraîneur principal donc du CSV, et fait la transition immédiate du statut de joueur à celui d'entraîneur. Et il sera secondé par Manu Stival, qu'on connaît bien au club, bien entendu, pour s'occuper de l'entraînement des avants. Donc voilà, attends-toi à un CSV rugby en très très belle posture, et en tout cas parmi les gros favoris de sa poule de Fédéral 2, évidemment, dans l'attente que la fédération valide son inscription la saison prochaine à ce niveau. Voilà les grosses actualités vraiment de ces derniers jours, toutes fraîches pour le sport régional.
D'accord, donc on peut présager un avenir radieux pour nos clubs de foot et de rugby locaux pour la prochaine saison alors.
Mais très certainement. Alors, pour compléter ce petit point sportif, Mathieu, je rappelle à nos amis, je pense qu'on l'avait déjà signé la semaine passée, eh bien que le club de basket phare de la région Beaujolais Basket repartira en National 2, lui aussi avec une très belle équipe. Mais on a appris cette semaine la retraite sportive du meneur de jeu et capitaine Boudjega ici. On a appris également la retraite sportive d'autres joueurs de l'équipe comme Benjamin Coste, et également le départ de Romain Tillon, le coach qui avait réussi cette formidable saison pour Beaujolais Basket, qui était en tête de deux et qui pouvait postuler à l'accession à la Nationale 1, hein, rappelons-le. Mais le basket a décidé de geler la saison et de faire une saison blanche, hein, c'est-à-dire. Et il n'y a ni montée ni descente, c'est un statu quo total dans le basket. Mais en tout cas, cette équipe de Beaujolais Basket, eh bien, est à la recherche d'un nouvel entraîneur, puisque Romain Tillon, donc, malheureusement, après une formidable saison, une seule et unique saison à la tête de l'équipe, retourne à Feur, le club de toujours, hein, de son enfance, de sa carrière de joueur. Il redevient entraîneur à Feur, qui a demandé à revenir en National 2 lui aussi. Donc on reverra sans doute Romain Tillon la saison prochaine, mais aux commandes donc probablement d'un adversaire potentiel de club cherche actuellement un entraîneur. Voilà pour, je dirais, l'actualité basket. On peut terminer en signalant la re-signature de Mathieu Simon, le meilleur shooter, le joueur le plus adroit de la Nationale 2, avec le meilleur ratio de tir à 3 points de la Ligue, qui repart donc pour une saison supplémentaire au moins. Mais a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est sans doute pour plusieurs saisons, mais ça c'est pas officiel. En tout cas, il y a volonté respective entre le joueur et le club pour que Mathieu Simon reste le shooter à patenter, n'est-ce pas, de Beaujolais Basket pour les saisons à venir. Ça c'était pour l'actualité basket.
Merci. Dis-ce que tu as d'autres informations sur d'autres sports à nous partager.
Alors, très
très rapidement, parce que je sais que tu es attendu par Georges Boton, donc on n'est pas trop débordé. Petit tour d'horizon très très rapide pour vous rappeler que les équipes de handball, eh bien, c'est le statu quo pour la région, puisque là encore, on est avec la Fédération française de handball dans le statu quo et la saison blanche, entre guillemets. Donc Villefranche, qui était en grand danger en National 2, pourra souffler et peut-être réétoffer son effectif pour pouvoir rester à ce niveau. Ça, ils resteront à ce niveau, mais pour pouvoir peut-être y jouer un rôle peut-être un petit peu moins ingrat que celui du maintien. Belleville-Val-de-Saône reste en National 3, ça c'est toujours pour les masculins, et devra gommer une saison 2019-2020 plutôt pas tout à fait conforme aux attentes, dans le ventre mou du classement. Du côté des féminines, eh bien, c'est un soulagement pour Saint-Julien de Nice-Églaisé, parce que l'effectif avait été décimé par les blessures au début, à peine au milieu de la saison, et bien pour les filles, donc en National 2, elles pourront repartir, et on l'espère, avec un effectif où on aura retrouvé les fers de lance, notamment Jessica Catalan et ses coéquipières blessées, qui seront indispensables pour être compétitifs en National 2. Il faut se rappeler qu'elles étaient en tête de ce championnat avant que l'avalanche de blessures ne leur tombe dessus. Et puis la dernière chose, c'est le volleyball, avec le maintien pour les messieurs en National 2, pour le volleyball Villefranche, et pour les féminines, eh bien, elles venaient d'accéder en National 3, eh bien, elles sont directement propulsées en National 2, figure-toi, parce qu'elles étaient en tête du classement avant que la saison ne soit gelée. Et c'est donc deux montées successives pour le volley féminin à Villefranche. Donc, bien,
très bravo
pour les filles. Et puis, ouais, on espère qu'elles relèveront le défi la saison prochaine au plus haut niveau.
Merci Eddy pour toutes ces informations, l'actualité du sport, et donc qui nous permet de voir la prochaine saison se dessiner à travers toutes ces informations. Et ben, je crois qu'on a perdu Eddy. En tout cas, on le remercie pour ce petit.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur l'antenne.
Oui, merci Eddy, on te retrouve la semaine prochaine, effectivement. On va faire une petite pause musicale avant de retrouver l'ami Georges Boton sur Calade. Je vous propose d'écouter un morceau qui nous a été envoyé par Joseph Pariot, qui intervient habituellement tous les vendredis. Alors demain, c'est le 1er mai, donc on ne pourra pas le retrouver. Et aujourd'hui, il m'a dit qu'il était très occupé à nous préparer une surprise, qu'on attend donc avec impatience. D'autant qu'il met chaque jour en ligne sur sa chaîne YouTube la chanson des confinés. Alors il m'a proposé aujourd'hui un morceau de son groupe Criolando, deux morceaux même qui se suivent, El Pintao et El Chupino, du groupe Criolando de Joseph Pariot, qu'on écoute tout de suite. Tao et El Chupino, c'était du groupe du Beaujolais Criolando sur Calade.
Calade.
Le confinement, ensemble sur les ondes.
Et on va continuer de parler musique sur Calade. Après ce petit voyage avec la musique argentine, on retrouve notre cher ami Georges Botton pour nous proposer sa rubrique Mais la 11e. Bonjour Georges.
Bonjour Mathieu.
Alors comment vas-tu aujourd'hui ?
Ben moi ça va bien. Ça va très bien avec le beau temps.
Oui, alors
c'est comme ça, il faut faire avec. Le confinement, il faut faire avec le temps. Mais c'est pas, il y a des problèmes bien pires que ça sur l'humanité et il faut faire avec.
Oui, et puis c'est un temps à rester à la maison et ça tombe bien, on doit rester à la maison.
Exactement, exactement. Exactement. Voilà. Bon. Alors, c'est toi qui prends la relève aujourd'hui, c'est bien. Alors moi, j'ai noté une question qui soulève le problème de l'angoisse humaine. C'est l'acteur Patrick Timsit, qui est bien connu, qui avait dit « Il y a 4 femmes pour un homme sur la Terre ». Et alors il posait la question « Qui a piqué ma part ?» C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors j'arrête de dire des bêtises. Je vais quand même parler plutôt de musique, parce que c'est le but de mon petit passage à Radio Calade tous les jours. Et j'ai choisi pour vous, amis auditeurs et amis auditrices, un très beau morceau interprété par Django Reinhardt avec Duke Ellington et son orchestre. Et le morceau, c'est un classique, s'appelle Honeysuckle Rose. C'est un enregistrement du 10 novembre 1946 à Chicago. Alors, je vais dire 2 mots de Django Reinhardt et je dirai 2 mots après de ce qu'étaient les grands orchestres autrefois, dans les années 40, 50, etc. Django Reinhardt, c'est bien entendu un géant de la guitare et de la guitare électrique, puisque dans le morceau qu'on va passer, il est à la guitare électrique, et pratiquement tout le morceau, Django Reinhardt est en vedette, avec son imagination, sa très très belle sonorité, sa merveilleuse technique, et là il a la chance également d'être très bien accompagné, avec beaucoup de discrétion, par l'orchestre de Duke Ellington. Là, dans cet orchestre, il y a 13 musiciens, dont Duke Ellington, Johnny Hodges, saxo alto, Harry Carney, saxo baryton, et d'autres, bien entendu. Alors, je peux dire 2 mots rapidement de ce qu'étaient les grands orchestres de jazz qui ont immigré et qui ont été surtout connus à New York, à Chicago, dans les villes comme ça. Et il y a eu des grands orchestres, il y a eu Duke Ellington, Count Basie, Fletcher Anderson, Cab Calloway, Benny Goodman et d'autres, bien entendu. Et alors, pour revenir à Duke Ellington, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui, il était un des orchestres les plus célèbres à cause surtout de la richesse de ses arrangements. En ce qui concerne la personnalité de Duke Ellington, il était, paraît-il, extrêmement cool avec ses musiciens. Et alors j'ai noté un peu dans mes archives quelque chose d'amusant, c'est que quand son orchestre partait en tournée, c'était une vie collective, c'était parfois difficile et parfois très fatigant, et les musiciens avaient le don de se faire des blagues. Alors il y a Barney Bigard, le grand clarinettiste, qui avait été victime un jour d'une blague. Un de ses copains avait glissé un cure-dent sous un tampon de sa clarinette et il n'a pas pu faire son solo. Et puis un autre musicien, William Broad, qui était au tuba, il y a un de ses copains qui a jeté de l'eau dans le pavillon du tuba et William Broad, en voulant ranger son appareil, a arrangé tous ses voisins. Voilà, c'est les petites histoires des grands orchestres. Alors maintenant, si tu veux, comme je pense que tu es un petit peu pas très en avance, disons, eh bien si tu veux, on va lancer la musique Honeysuckle Rose par Django Reinhardt et Duke Ellington et son orchestre. Et moi, je dis au revoir à mes amis auditeurs et amies auditrices et je leur dis à lundi prochain.
À lundi prochain, Georges, et merci pour ce joli conseil musical, donc Django Reinhardt et Duke Ellington.
À lundi, Mathieu.
Allez,
bon week-end.
Bon week-end, Georges, on écoute ça tout de suite. Thank you. Django Reinhardt et Duke Ellington avec Honeysuckle Rose, c'était le choix musical de Georges Boton sur Calade.
Le confinement, ensemble sur les ondes.
Et il est l'heure de retrouver le dernier intervenant de cette émission, mais pas des moindres, c'est le chroniqueur Florent Hénon, et c'est un plaisir de le retrouver aujourd'hui. Bonjour Florent.
Salut Mathieu.
Comment ça va? Comment se passe le confinement pour toi?
Ça va, bah nickel, écoute, ça se passe bien, je suis content d'être avec toi. J'ai un petit écho par contre, hein. Je suis de chez moi, j'ai un petit écho.
Un petit écho, tu entends la... quel type d'écho?
Je m'entends moi-même.
Ah,
J'ai une fort jolie voix, mais...
C'est problème, petit problème technique, alors je vais essayer de le régler. Est-ce que ça va mieux? Je ne sais pas.
Oui, nickel.
Alors Florent, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui
Oui, bah alors moi, tu sais, moi je suis avec un petit 3 ans et demi, donc c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. J'ai eu très peu de temps pour préparer la chronique, et je sais que vu que tu es un grand fan de musique, bah, je voulais faire une chronique spéciale musique, si ça te dérange pas.
Ah bah, grand plaisir.
Super. Alors moi, l'ambiance du moment en musique, c'est les génériques de dessins animés pour les enfants de 3 ans. Donc c'est Pat' Patrouille, Pyjamas, etc. Donc pas sûr que ça parle au public de Radio Calade ni à toi d'ailleurs.
C'est vrai qu'on en diffuse pas beaucoup.
C'est ça. Alors j'ai creusé un petit peu sur le net et j'ai trouvé des petites perles qui, je pense, vont apporter ici un peu de subtilité, de connaissance. Et on va ressortir de cette chronique plus savant qu'on l'était avant.
Ah, merveilleux.
Alors par contre, j'ai une question. Qui a vendu plus de CD que Beyoncé en 2016? Est-ce que tu sais?
Ah, ça va être une bêtise. Je ne sais pas.
Non, eh ben, c'est quelqu'un qui monte en ce moment, c'est Mozart. Eh oui.
Ah oui?
Ça, tu ne savais pas. Ouais, c'est Mozart. Donc, imaginez le mec, il est mort à 37 ans en 1791. S'il était de notre époque, il aurait rempli des stades entiers. Alors que finalement, à l'inverse, si Beyoncé était au 18e siècle devant Louis XVI, voilà, pas sûr que ça ait fité.
Ouais.
J'imagine mal Madame de Pompadour qui twerk, qui est Bonaparte en mode « je pose ma bouteille en boîte avec Beethoven ». Bon, je pense qu'elle aurait fini guillotiner la sorcière.
Ah oui, très rapidement, oui.
Sinon, tout le monde connaît le grand James Brown. Alors, vous saviez qu'il mettait des amendes allant de 10 à 1000 dollars à ses musiciens lorsqu'ils arrivaient en retard.
Ah oui, je connaissais cette anecdote sur James Brown.
Non mais je sais pas si tu t'imagines, des amendes. C'est comme si toi, tu sortais dans la rue, achetais ta baguette et hop, tu te prenais une amende. Ah bah si en fait, ouais, si c'est possible.
Ah bah oui.
Savez-vous quel est l'instrument le plus vendu au monde?
Je dirais la flûte qu'on apprend à l'école, non? Ça doit être beaucoup vendu, ça.
Non, c'est l'harmonica. Non, c'est l'harmonica. Or, qui joue de l'harmonica à part Charles Bronson dans les westerns et quelques gars dans la rue? Non, c'est vrai, je pense qu'il y a un mystère. Autant, la Clio, c'est la voiture la plus vendue en France. On en voit quelques-unes, hein, quand même. Mais je mets au défi quiconque de me donner le nom d'un pote qui joue de l'harmonica ou le nom d'un harmoniciste, je ne sais pas comment on dit, célèbre. Impossible. Autre chose, selon une étude de l'université de Leicester en Angleterre, les vaches produisent plus de lait en écoutant Everybody Hurts de R.E.M. que Back in the USSR des Beatles.
Alors ça, je veux bien savoir comment ils ont fait l'étude.
Je sais pas, mais voilà, j'ai pas de commentaire. Je pense qu'il fallait le dire quand même. Saviez-vous aussi que Leo Fender, le célèbre inventeur de la guitare Stratocaster, etc., ne savait pas jouer de guitare? Voilà, comme quoi tout est possible.
Mais oui, on peut inventer une guitare sans savoir en jouer.
C'est ça. On peut faire de la politique sans s'y connaître. C'est pareil. On en voit quelques-uns en ce moment. On peut être chanteur sans savoir chanter. Regardez Jules, Rihanna ou alors Caroline Loeb de Fela Watt. On compte qu'au final, ces trois personnes n'ont absolument rien à voir avec les unes avec les autres. Mais bon, voilà, c'est encore pire que Madame de Pompadour qui twerk sur du Beyoncé. On n'y croit pas.
Ça ne peut pas exister.
Saviez-vous aussi que Eminem a écrit The Real Slim Shady 3 heures avant l'heure de devoir finir son album? Donc là, pour le coup, c'est un gros point commun que j'ai avec lui. Ah oui, aussi, anecdote. Anecdote, par contre, vraiment naze, mais anecdote quand même. Je vous la donne. J'ai trouvé sur Internet, comme quoi c'est génial Internet, que des chercheurs avaient vu qu'il fallait en moyenne 2,29 secondes pour reconnaître le titre de Wannabe des Spice Girls.
Des chercheurs, et ils sont payés pour faire ce genre de recherche.
Exactement. Ils pourraient chercher un traitement contre le coronavirus, mais non, ils se disent, allez, un peu de karaoké. Donc, à éviter en blind test, donc Wannabe
des Spice Girls. 2 secondes 29, c'est ça?
2 secondes 29, ouais, c'est ça. Et dernière petite anecdote, si je vous dis, enfin si je te dis 144, tu penses à quoi ?
144, je sais pas, en musique, là ça ne me dit rien, j'ai pas d'idée.
Eh bien, figure-toi que c'est le nombre de fois où les Daft Punk disent Around the World dans leur titre Around the World.
Et qui a compté alors cette information ?
Ben, je sais pas, encore un chercheur qui n'avait rien à faire, il devait être en confinement, tu sais, on fait des trucs, des fois, je sais pas. Donc on comprend mieux pourquoi les mecs, donc déjà, ils veulent pas montrer leur tête, parce que bon, quand tu sors ce type de paroles-là, vaut mieux te cacher. Et ça fait penser aussi à l'autre chanson où il y a 12 790, bon, c'est que j'exagère un peu, Tiamo, dans Tiamo, tu sais,
Tiamo. Tiamo,
Tiamo. Tiamo, oui. Bon, j'ai pas le temps de te la faire en entier, mais ouais, c'est exactement la même chose. Donc, en conclusion, je voulais te dire, je sais pas si vous sortirez plus savant avec toutes ces connaissances, mais en tout cas, je souhaite à tout le monde une bonne fin de confinement. Donc, n'hésitez pas à écouter de la musique pendant ce confinement, ça vous fera passer le temps, et surtout sur Radio Calade. Hein. Là, c'est bon pour la pub, Mathieu, je l'ai placé du coup qu'il fallait écouter Radio Calade.
C'est bon, c'est parfait, merci. Tu pourras venir récupérer ton chèque, Florent.
Merci, c'est bien sympa Mathieu.
Bon, merci, mais je vois que tu sais t'occuper en récupérant, en allant chercher toutes sortes d'infos essentielles pendant ce confinement.
C'est essentiel, c'est un pot de survie Mathieu.
Merci beaucoup pour cette petite chronique, on te retrouve la semaine prochaine.
Oui, pas de souci, je serai là.
Avec grand plaisir, merci encore Florent. On va continuer en musique sur Calade, puisque Florent vient de nous donner plein d'informations pertinentes sur le monde de la musique. Tiens, moi j'ai envie d'écouter du Curtis Mayfield tout de suite avec Superfly.
Calade. Le confinement, ensemble sur les ondes.
C'est Curtis Mayfield que vous écoutez actuellement sur Calade avec le titre Superfly. C'est la fin de cette émission Le Confinement Ensemble sur les ondes. On se retrouve lundi sur Calade puisque demain c'est le 1er mai, journée du travail ou journée des travailleurs et donc jour férié. Vous retrouvez aussi mes camarades Eddy Bernard et Benoît Adam à l'animation mardi et mercredi. Et vous avez un beau programme qui vous attend cet après-midi sur Calade avec à 15h votre magazine Sur la route et tout de suite 24 notes par seconde, l'émission sur les musiques de films. Et puis vous retrouvez cette émission ainsi que tous nos programmes sur notre site internet www.radio-calade.fr. Très bonne journée sur Calade et bon week-end aussi. On vous le répète, on ne vous le dira jamais assez, restez chez vous et prenez bien soin de vous. À lundi, ciao ciao.
Calade, 14h.